Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de l'éducation à la sexualité parce que les questions qui concernent la vie affective, les relations, le corps sont nombreuses et qu'il est important de pouvoir y apporter des réponses pour se construire, pour se protéger, mais aussi pour s'épanouir. Et c'est vrai, c'est encore un sujet tabou pour preuve, la prudence, le choix de chacun des mots employés au moment de concevoir, par exemple, des programmes qui s'adressent aux enfants scolarisés. Cet enseignement est officiellement obligatoire en France, mais dans les faits, on a observé une certaine réserve, voire un désengagement en la matière, qui avait d'ailleurs conduit des associations comme SIDAction ou le Planning Familial à poursuivre l'État en justice pour que les 3 séances obligatoires soient effectivement dispensées. Le Conseil supérieur des programmes a donc rendu sa copie au mois de mars, une 60aine de pages pour donner un cadre, des objets d'études en fonction des cycles et permettre aux enseignants de proposer des apprentissages adaptés. Alors qu'est-ce qui change en matière d'éducation à la sexualité en France? Quels bénéfices en attendre en matière de prévention et surtout pour la santé en général? Nous posons ces questions aujourd'hui dans Priorité Santé. Et nous retrouvons dans les studios de RFI Charline Bermond, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes formatrice en santé sexuelle, sexothérapeute et vous avez signé le livre, ou plutôt les livres Corps, Amour, Sexualité, paru aux éditions Albin Michel. Un volume destiné au public préadolescent plutôt.
5-14 ans.
5-14 ans pour les plus jeunes et puis un deuxième pour les ados.
À partir de 15 ans.
À partir de 15 ans. Ouvrage validé par un comité médical et éducatif composé de psy, pédopsie, médecins, enseignants et une gynécologue obstétricienne. C'est vous, docteur Juju, bonjour.
Bonjour.
Vous exercez dans la région Pays de Loire. Vous êtes aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @jujulagigi. J'évoquais ce document qui fixe des axes pour l'éducation à la sexualité à l'école en France. On va donner tout à l'heure la parole à Caroline Moreau-Fauvarc. Elle a copiloté ce projet. Elle est inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour le ministère de l'Éducation nationale. Et puis en fin d'émission, on va vous proposer de retrouver notre séquence Haïti nous parle. Témoignage de Lovely, l'écoute d'un spécialiste en santé mentale, Ronald Jean-Jacques, psychologue, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Et bien sûr, si vous souhaitez témoigner, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Apprendre, transmettre les savoirs qui aident à mieux grandir, dispenser une information adaptée sur le corps, sur les relations, sur l'épanouissement, et puis faire aussi face à certaines réticences, parce qu'il va aussi en être question. Charline de Vermont, vous avez donc signé 2 ouvrages illustrés, 2 livres pour 2 publics, on peut dire, en fonction de l'âge. On va plutôt nous arrêter aujourd'hui sur celui qui est destiné aux 5-14 ans. Déjà, en parcourant ce livre, on perçoit à quel point les questions sont non seulement nombreuses, mais aussi variées. Ça parle d'énormément de choses, hein, l'éducation à la sexualité.
Absolument. En fait, j'ai été vraiment happée en France par le vide intersidéral en matière de transmission. C'est vrai, quand on est parent, on transmet à son enfant plein d'informations, un patrimoine, une histoire familiale, des recettes, etc. Il y a un sujet sur lequel les parents ont du mal à faire une forme de transmission et d'éducation, c'est tout ce qui a trait au corps, à l'intimité, aux émotions, aux premiers émois, etc. Et pour moi, qui suis formatrice en santé sexuelle et qui a affaire à des publics parfois de professionnels de santé, d'adultes, etc., et d'enfants, je me disais, mais quel ouvrage j'aimerais mettre entre les mains des familles pour qu'il y ait une transmission intergénérationnelle qui puisse avoir lieu.
Vous disiez des difficultés, et pour cause, c'est parce que ce travail n'a pas forcément été fait par la génération précédente.
Oui, exactement. Je pense qu'on est quand même héritier, en fait, de ces générations de silence.
Partout dans le monde, hein, d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est clair qu'il y a, de ce point de vue-là, on a un constat qui est quand même assez effarant, sachant qu'il y a quand même des pays qui sont plus en avance que nous sur le sujet. Quand on regarde le Québec, le Canada, les pays nordiques, de manière générale, le monde anglo-saxon est un peu plus en avance que nous, qui sommes encore dans une tradition latine.
Attention, que si vous dites le Québec, le monde anglo-saxon, on va avoir des réactions.
Effectivement, aujourd'hui, voilà, en France, on avait besoin en fait d'un ouvrage de référence qui permette aux parents qui entendent les questions, les enfants ont des questions, mais c'est vrai qu'en tant que parent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Est-ce qu'il y a un mot de trop qui risquerait de troubler nos enfants ?
Parce que finalement, cette prudence, elle a aussi sa place.
Elle a sa place. On a besoin, et c'est un impératif, de protéger deux intimités. D'abord, l'intimité de l'enfant. On a le droit à son intimité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, évidemment, encore moins faire. Et il y a l'intimité de l'adulte, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre vie intime de parent.
Évidemment, quand un enfant vous pose des questions sur la sexualité, vous n'allez pas prendre un exemple, une illustration du couple parental.
Exactement.
C'est pas possible.
Ce qui se passe dans votre chambre à coucher, ça ne regarde que vous, ça ne regarde pas votre enfant. Donc, concrètement, il y a deux intimités qui sont très importantes, qui sont à protéger. Et transmettre, en fait, c'est louvoyer entre ces deux intimités-là, en les protégeant, tout en donnant aux enfants des informations claires, simples, intelligentes. Et pour moi, c'était important de faire ce livre extrêmement illustré. Je pense qu'il est aussi important de souligner le travail de l'illustratrice, qui est Juliette Mercier, qui a Stomy Buzzy sur les réseaux, et qui a, avec des dessins simples, avec beaucoup d'humour aussi, a permis en fait à des centaines de milliers de personnes en fait de pouvoir s'asseoir dans un canapé, d'ouvrir ce livre et de répondre aux questions des enfants.
Des questions pour la famille et aussi 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité prévues en France, à l'école là cette fois. Et pour vous, Charline, Vermont, c'est loin d'être suffisant, 3 séances. Encore faudrait-il qu'elles soient dispensées ?
Je pense que les parents ont peur et ont des réticences quand ils entendent le mot « éducation à la sexualité » quand on parle d'enfants. Alors, j'aimerais vraiment être claire, moi j'aime bien utiliser le mot « éducation à la vie affective » quand on est avant le lycée. Pour moi, quand je suis en primaire ou face au collège, on est réellement sur un apprentissage de mon corps, comment s'appellent les différentes parties de mon corps, savoir nommer, comprendre la notion d'intimité. Comprendre également la notion de consentement, pouvoir exprimer ses émotions, etc. Donc ça, c'est de l'éducation à la vie affective. Et pour moi, c'est important de parler de ça. Quand on parle en France, effectivement, de ce qui se passe en milieu scolaire, l'Inspection générale de l'Éducation nationale a mené une enquête pour savoir quelle était l'application de cette loi de 2001 qui impose effectivement 3 séances annuelles. Entre le CP et la terminale. La réalité, c'est qu'au collège, seuls 15% de ces séances sont assurées et au lycée on est à 20%. Donc en réalité, 3 séances déjà c'est très 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 peu.
Et dans les faits c'est encore moins. Dans votre approche, ça a été important d'être entouré par des experts pour la relecture, pour la validation qui un petit peu vont attester encore davantage du sérieux de la démarche ?
Alors pour moi, c'était indispensable que les informations données aux enfants, ce soient des informations correctes, qu'elles soient étayées médicalement pour l'ouvrage qui concerne les ados 15 et plus. Il y a vraiment encore plus de sources. Et j'insiste fortement sur le premier livre. Je rappelle que les 5-14 ans, c'est un livre qui est conçu par tranche d'âge. C'est-à-dire on ne parle pas de la même manière un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 14 ans. Et notamment, le travail des spécialistes, notamment des pédopsychiatres, psychologues, etc., qui m'ont accompagné, c'était de déterminer quelle était la tranche d'âge adéquate pour chacune des questions posées. On s'adapte à la maturité psycho-émotionnelle des enfants.
Docteur Juju, précisément, vous êtes gynéco, vous êtes aussi donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Parler de cette sexualité, c'est à la fois très simple, mais on l'a compris aussi, à première vue, très simple. En fait, c'est compliqué. Pourquoi c'est important de parler de la santé sexuelle ? On l'a compris, il y a beaucoup d'émotions, de relations, d'affections là-dedans aussi. Ce n'est pas simplement la vie des organes, très très loin de là. Pourquoi c'est important d'en parler aux enfants ?
C'est essentiel, je pense, parce que si on attend d'être arrivé à un âge où on découvre sa propre sexualité et où on se pose des questions, si on n'a pas été informé, si on n'a pas pris conscience de son corps et du corps de l'autre et du respect du corps de l'autre et du respect de son propre corps, on sait que c'est des enfants ou des jeunes adultes qui vont aller plus vers plus de MST, plus de grossesses non désirées, parce que c'est des gens qui ne savent pas. Alors que si on a pris le temps d'apprendre que le consentement, c'est essentiel, qu'on doit respecter son propre corps, qu'on a le droit de dire non, et bien là, on va aller vers une découverte de la sexualité beaucoup plus épanouie et beaucoup plus épanouissante. Et que ce soit une sexualité en solo ou partagée, ça me paraît essentiel. Mais nous, en tout cas, à l'école, en médecine, alors j'espère que ça change, on a appris des choses très scientifiques. On n'a pas appris à parler de ces choses-là, en fait, ni avec les enfants et ni avec les adultes, au final.
Est-ce que finalement, vous le ressentez en consultation, qu'il y a des personnes, un certain nombre de femmes notamment, qui sont passées à côté d'infos essentielles, C'est un bon lapsus.
C'est très joli.
Voilà. Essentiel pour connaître leur propre corps et oui. pour bien avancer dans la vie sexuelle.
C'est toujours très étonnant de se rendre compte à quel point les gens ne connaissent pas leur corps, quel que soit le genre en fait. Et si on ne connaît pas déjà son propre corps, eh ben, on ne risque pas d'avoir accès à une sexualité partagée, épanouissante, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc je pense que c'est la base. Mais ça, ce n'est pas nous, en tant que gynéco, qu'allons apprendre ça aux gens. Et c'est, ça doit se faire bien, bien en amont.
Bien
en
avant. Fait. Justement, on a une illustration. Message Facebook d'une auditrice du Cameroun. Maïmouna, elle demande, je vous lis sa question, je suis maman de 3 enfants de 2 à 7 ans. Comment aborder l'éducation sexuelle sainement avec eux? Je m'arrête sur justement cet adverbe sainement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir comme préoccupation. J'ai envie d'en parler, mais j'ai envie d'être juste, pas aller trop loin et puis pas me sentir mal à l'aise après. Charline Vermont, c'est quelque chose d'important aussi, la manière de dire les choses.
Oui, l'attitude en fait compte pour beaucoup. C'est-à-dire, la réalité, c'est que si les parents ont une approche très tendue en fait sur le sujet, si on sent qu'il y a une forme de honte ou de tabou autour de la question, en fait, les enfants sont des éponges émotionnelles et vont complètement intégrer sur « Oh mon Dieu, ce sujet, il a l'air grave », d'où le fait qu'on entend beaucoup d'enfants dire « Ah bah, c'est Burke ». On intègre en réalité très très tôt en fait cette espèce de honte, de tabou. Moi je pense que les parents ont un rôle à jouer dans le sens où on peut avoir une forme de conversation ordinaire.
Et on voit les choses changer, notamment je pense aux règles. Avant c'était non seulement silence, puis après c'était vraiment considéré comme, je mets d'énormes guillemets, hein, ouais. dégoûtant. Et les choses changent véritablement.
Absolument. Mmh. Et ça je pense que Dr Juju l'a vraiment bien dit, c'est-à-dire à partir du moment où on explique en fait les choses sainement, avec des petits dessins adaptés pour comprendre effectivement pourquoi on a ces règles, comment ça se passe. Alors non seulement les personnes menstruées, les jeunes femmes, elles vont, le jour où ça arrive, moi je peux vous dire, j'ai un exemple à la maison, parce que moi j'ai 2 ados qui ont eu leurs règles, elles étaient tellement contentes en disant « Maman, maman, c'est la fête, c'est arrivé !» Et voilà, et elles étaient trop contentes en disant « J'ai ovulé, j'ai pondu !» Elles étaient trop contentes. Voilà, on transforme les moments qui pouvaient être avant...
Angoissants.
Enfin, y a des jeunes femmes qui n'étaient pas au courant et qui ont cru qu'elles étaient en train de mourir quand elles ont vu du sang dans leur culotte, en un moment hyper enthousiasmant, un grand moment de complicité également, parents-enfants. Et elles étaient là, maman, est-ce que j'ai le droit à un cadeau? Ouais, est-ce que je peux avoir une culotte menstruelle? Ouais, mais carrément, viens, on va les choisir ensemble. En réalité, c'est des moments hyper chouettes.
Et moi, à l'inverse, j'ai des garçons. Et le sujet des règles n'est pas du tout tabou à la maison, parce que ça me paraissait essentiel que mes garçons sachent que les femmes ont des menstrues. Enfin, qu'il y a des personnes qui sont menstruées.
Y compris leur mère, oui.
Y compris leur mère. Et donc, je laisse très fièrement sécher mes serviettes hygiéniques recyclables ou mes culottes menstruelles sur le tankerville. Et régulièrement, il y a le grand qui passe en disant « Ah, maman a ses règles, elle n'est pas ménopausée, on peut encore avoir un petit frère. » Donc,
pas de pression.
Ils ont intégré le truc, ça fait partie du quotidien. C'est un non-sujet, en fait. Ouais. Ça fait partie du quotidien pour eux.
Et pour moi, c'est
ça me semble essentiel.
Mais merci, docteur Juju, de le préciser. Je rappelle que, je parlais des personnes menstruées, mais également les garçons qui sont des alliés, en fait. Pour nous, c'est important, en fait, d'avoir à nos côtés des partenaires, plus tard des partenaires, mais aujourd'hui des alliés qui, toutes ces espèces de blagues, « Oh, elle est vénère, elle doit avoir ses règles, etc. » Ce sont des choses que nous, on a pu entendre, que demain, on n'a plus envie d'entendre. Et dans mon livre, par exemple, il y a vraiment cette question de ma camarade de classe a ses règles, comment je peux faire pour l'aider? Tu peux lui proposer de porter son sac, par exemple, parce que parfois, pendant les règles, on a des douleurs qui vont jusqu'au dos. Tu peux lui proposer d'aller à l'infirmerie si elle a mal. Et en réalité, on est en train de construire une génération avec de l'empathie les uns pour les autres, des vrais alliés. Et pour moi, c'était essentiel.
On a un message du Mali, signé de Thérèse. Elle écrit « Dans la tradition, on éduque les enfants sur la sexualité à partir de l'adolescence et je pense que c'est le meilleur moment. Est-ce que le fait de parler de sexualité aux enfants, c'est toujours son message, ne risque pas de les rendre curieux et de les inciter à la pratique ?» Docteur Juju, c'est un argument qu'on peut, par exemple, entendre du côté des détracteurs de l'éducation à la sexualité, de dire « En parler, c'est inciter ». Vous répondez quoi à ça?
Moi, je suis pas du tout d'accord. En parler, c'est justement permettre de faire les choses bien.
En pleine connaissance de cause.
Voilà, c'est ça, parce que la curiosité, elle sera là. Et si on n'en parle pas, ils vont faire quoi? Ils vont taper sur Internet, sexualité, ou... Alors, pour vous donner un exemple personnel, moi, quand j'étais ado, j'avais entendu le mot fellation, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça, j'ai cherché dans le Larousse. Aujourd'hui, les gens, ils ne vont pas chercher dans le Larousse. Les ados, ils vont taper Internet, fellation.
Et ils ne tombent pas sur du texte.
Et ils vont voir des images. Ils vont voir des images, des vidéos. Ça peut être choquant. Et surtout, ce n'est pas un rapport sain à la sexualité. Ils vont voir des choses qui peuvent leur faire peur. Ou au contraire, où souvent, les femmes sont quand même pas forcément dans une sexualité consentie. Et ça ne donne pas un bon exemple. Donc, en parler, au contraire, c'est prévenir En tout cas, la violence sexuelle, je pense.
Cette fameuse question, à partir de quel âge ? À partir de l'adolescence, disait donc notre auditrice du Mali, Amélie de Madagascar. Elle pose la question carrément, à partir de quel âge doit-on commencer à en parler ? Et Amélie demande aussi comment sensibiliser des enfants de moins de 12 ans. Là, on touche à un autre sujet, précisément la prévention. Les enfants de moins de 12 ans, au fait qu'il faut alerter quand un adulte veut leur toucher le sexe. C'est une question concrète, mais très importante. Charline Vermont, quel conseil ?
Alors, il y a plusieurs questions en une. Tout d'abord, les études montrent qu'en réalité, plus on a de conversations saines et intelligentes avec nos enfants et nos ados autour de ce sujet-là, plus les premiers rapports sont tardifs. On a des études qui ont été menées partout dans le monde, qu'on retrouve dans les principes directeurs de l'UNESCO, qui attestent au contraire qu'on augmente le critère d'exigence et que ça a lieu plus tard. Donc ça, c'est génial, parce que la sexualité aura lieu dans de meilleures conditions. Deuxième sujet, à partir de quand on peut en parler ? Là, je vais reprendre également les principes directeurs de l'UNESCO, qui expliquent qu'à partir de l'âge de 5 ans, eh bien, il y a des sujets qu'on peut commencer à aborder. Attention, on ne parle pas de sexe aux enfants de 5 ans. On va leur apprendre à nommer les parties de leur corps. On va effectivement leur apprendre que nul ne peut toucher leur corps, qui est leur intégrité physique, sans leur consentement. Et que si un adulte se permet de le faire, alors, attention, enfin, ce n'est pas normal, il est important d'aller en parler à un adulte de confiance. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent s'expliquer très, très jeune.
Très jeune. On va justement poursuivre sur ce sujet. Ces clés également, docteur Juju, ces outils nécessaires pour protéger les enfants, c'est quelque chose qu'on peut justement conseiller aux parents qui se posent des questions ?
Ah bah moi, je leur conseillerais d'acheter et de lire le livre de Charline. Parce que c'est cette éducation à la vie affective et non pas forcément sexuelle quand on est très jeune qui va faire qu'on a conscience de son corps et qu'on ne va pas se laisser faire si jamais... La crainte des adultes, c'est souvent que leur enfant puisse être agressé. Et si l'enfant sait que son corps et qu'on n'a pas le droit de le toucher, alors il va être capable de se défendre ou d'en parler. Et ça, c'est bien avant de parler de la sexualité. Et en fait, pour répondre à la question, parce qu'il y avait effectivement plusieurs questions en une, de l'âge à partir duquel en parler, et en fait, les enfants, ils vont poser des questions. Ils vont poser des questions et on va pouvoir répondre à leur rythme.
Ne pas laisser de questions sans réponse. On va poursuivre avec ces informations, cette prévention, transmission et le respect essentiel. Notre échange, on va se retrouver juste après Dead Bull Body Hit dans Priorité Santé.
Just let it happen.
Priorité santé sur RFI, notre sujet du jour, l'éducation à la sexualité. Alors qu'en France, un nouveau programme vient d'être rendu public au mois de mars pour les élèves de la maternelle au lycée. Sujet qui reste tabou, hein, mais aussi une question centrale de santé, de bien-être, construction, prévention. On continue d'en parler avec Charline Vermont, sexothérapeute qui a signé le livre « Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser » paru chez Albin Michel. Un guide d'éducation notamment relu par Dr Juju qui est aussi avec nous dans les studios de RFI, gynécologue obstétricienne en Pays de Loire. Dr Juju, actif sur les réseaux sociaux avec forcément un ton, une image plutôt différente par rapport à ce qui se passe en consultation. Ça veut dire qu'on peut aussi, quand on est médecin, qu'on a fait de longues études, qu'on est très sérieuse, faire un gros travail de pédagogie pour déconstruire notamment des fausses croyances qui circulent sur Internet, en passant par Internet.
Oui, alors à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses fausses, beaucoup de fake meds, beaucoup d'idées reçues sur les réseaux sociaux, et que s'il n'y avait pas des vrais médecins, des gens avec une pensée scientifique et qui disent des choses qui sont vraies et validées par la science, qui prenaient la place, la place serait prise par d'autres. Et donc, je me suis dit que je pouvais peut-être être cette voix que j'avais envie d'entendre. Et puis, il y a autre chose que je me suis dit quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est qu'en consultation, je touche une personne. Je vais donner des informations à une personne. Si j'ai de la chance, elle en parlera peut-être à deux, trois copines, et j'aurai touché quatre personnes, cinq personnes. Avec mes vidéos sur les réseaux sociaux de vulgarisation en santé, je peux toucher 10 000, 20 000, 100 000 personnes sur une vidéo qui marche bien. Et c'est de l'information à grande échelle et ça vaut la peine.
Éducation à la sexualité dans le contexte précis de l'école maintenant. On y vient avec vous, Caroline Moreau-Fauvarc, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors, vous êtes l'une des deux personnalités qui a piloté ce projet de programme scolaire d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, hein, c'est l'intitulé. Vous êtes aussi inspectrice générale de l'éducation du sport et de la recherche pour le ministère de l'Éducation nationale. On va partir de la voie officielle. Dans les textes aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est prévu obligatoire en matière d'éducation à la sexualité ?
L'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l'éducation depuis 2001. Donc c'est l'article L312-16 qui institue le fait que l'école doit assurer au moins 3 séances par groupe d'âge homogène dans les écoles, collèges et lycées.
Est-ce que c'est un prof particulier qui doit dispenser ce cours ?
Le texte de loi ne précise pas les conditions de mise en œuvre de ces séances. Et le constat qui a été fait par plusieurs rapports, c'est qu'elle est mise en œuvre de manière très inégale et de manière assez segmentée et qu'en général, il s'agit soit de l'infirmière scolaire, soit de l'enseignant, très souvent de sciences de la vie et de la terre, qui prend en charge ces séances, ou alors le recours à des intervenants extérieurs, des associations en général.
Et c'est vrai, ce qu'on entendait avant, c'est qu'on parlait davantage de la germination du haricot que de la reproduction ou même des relations sexuelles.
Oui, alors l'éducation à la sexualité, il faut vraiment l'entendre dans son contexte scolaire qui est porté par trois dimensions. Il y a une dimension biologique donc, qui vise à apporter des informations scientifiques sur la reproduction et la sexualité humaine, une dimension psycho-émotionnelle qui apporte des informations sur et qui aide les élèves à construire leur personnalité et à développer des relations respectueuses avec les autres. Et ensuite, il y a une dimension sociale et juridique qui prend en charge donc, tous les aspects sociétaux et les aspects légaux des questions liées à la sexualité.
Trois axes qu'on retrouve dans ce nouveau document hein, d'une soixantaine de pages sur lequel vous avez donc travaillé. Avant cela, Caroline Moreau-Fauvarc, sur quel support s'appuyaient les enseignants pour les séances de sensibilisation ? Ils avaient quoi comme matériaux ?
Alors justement, il n'y avait rien d'officiel. Enfin, il y avait des documents ressources, très nombreux, produits par le ministère, mais il n'y avait pas de prescription officielle, ce qui a été identifié comme un frein pour les enseignants pour mettre en œuvre ces séances, puisque les enseignants ne sont pas forcément formés pour traiter ces questions et donc pouvaient se sentir un peu démunis. C'était vraiment l'idée de ce programme, c'est d'apporter finalement un cadre et d'apporter des supports, des propositions qui puissent aider les enseignants à mettre en œuvre ces séances.
Et un point important justement, qui va le dispenser ? On disait tout à l'heure, avant c'était peut-être l'infirmière scolaire, le médecin scolaire ou la prof de bio ou le prof de SVT. Aujourd'hui, comment ça se décide au sein de l'équipe éducative ? Qui va finalement hériter de ce cadeau d'enseigner la vie affective et relationnelle ?
Alors, nous avons eu deux axes de travail hein, au sein du groupe pour élaborer ces programmes. Le premier, c'était de se poser la question de la part propre que doit prendre l'école dans cette éducation, hein, quelle est la part spécifique que l'école doit prendre. Et l'autre axe extrêmement important, c'est la pluridisciplinarité, s'appuyer sur les ressources propres de l'école, qui, même si elles ne sont pas suffisantes, sont quand même assez riches en termes de ressources disciplinaires, mais aussi de ressources métiers. Il y a les infirmières scolaires, il y a la vie scolaire, les assistants d'éducation. Et donc, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur l'ensemble des ressources. Et donc, notre proposition, c'est que si on veut traiter l'ensemble des trois dimensions de l'éducation à la sexualité, il faut s'appuyer sur les ressources en termes, pas forcément que d'informations biologiques, mais également s'appuyer sur le pôle humanité, s'appuyer sur le pôle des enseignements artistiques et également de l'éducation physique et sportive. Donc, on propose que la communauté éducative, en amont de l'année scolaire, organise, planifie ses séances en toute collégialité pour pouvoir aborder l'ensemble de ces dimensions de l'éducation à la sexualité.
Et c'est important de le faire en amont pour que ce ne soit pas remisé au dernier moment, voire carrément passer aux oubliettes, passer à la trappe. Alors, un programme qui sert de base de travail aux enseignants, on l'a bien compris, en fonction des différentes périodes de l'enfant, c'est très important, cette adaptation au public. Est-ce que vous avez d'ores et déjà, Caroline Moreau-Fauvarc, eu des retours par rapport à votre travail? C'est vrai que c'est récent, hein, ça n'a été publié qu'au mois de mars.
Le projet de programme a été publié par le Conseil supérieur des programmes et il est aujourd'hui dans une phase de consultation. Mmh. Donc, les associations, les partenaires institutionnels, puisque évidemment le ministère de la Santé, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations sont tout à fait partenaires de l'école à ce sujet, mais également les associations et les syndicats enseignants, parce que c'est aussi important de consulter les personnels de l'éducation nationale sur ce sujet.
Alors, on va poursuivre cet échange, si vous le voulez bien, mais tout de suite, ce témoignage, c'est celui d'un prof, qui enseigne très loin de la France, en République démocratique du Congo. Mais vous allez voir que certaines de ses préoccupations sont totalement communes. Ce prof s'appelle Jean et il a enregistré ce message sur notre répondeur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. On écoute Jean.
Bonjour, Priorité Santé, je m'appelle Jean. Depuis la ville d'Ovira, en République démocratique du Congo, je suis enseignant, professeur de comptabilité. Alors, dans mon métier, les élèves me posent des questions sur l'éducation sexuelle. Leur âge varie de 14, 15, 16 ans. Le programme prévoit les cours d'éducation à la vie. Et c'est dans ces cours où l'enseignant devrait parler réellement des problèmes des enfants ou des problèmes liés à la sexualité. À cet effet, les enfants se confient à moi en disant qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'aborder le sujet de sexualité avec leur enseignant d'éducation à la vie. Et parfois, l'enseignant ne leur répond pas bien. Alors, j'ai essayé un peu de parler à l'enseignant. Quoi, vous ne prenez pas en compte les questions des enfants? Lui, il m'a répondu, il se concentre pour terminer les programmes scolaires. Alors, à cet effet, il y a des questions auxquelles les enfants me posent parfois. Qu'est-ce qui peut expliquer les changements des règles, la date des cycles mensuels? Et aussi, les enfants me posent des questions du genre comment va ressembler la première fois et d'autres, et les changements corporels. Et surtout, les filles me posent des questions sur aussi les changements de la qualité des pertes blanches. Et aussi, d'autres filles ont des questions, elles ne veulent pas s'exprimer librement en classe pour peur d'être jugées par les autres. Alors, je voudrais savoir quelles sont les stratégies que je peux appliquer en tant qu'enseignant et d'une autre discipline pour intervenir dans la sexualité, pour aider la jeune génération et de comprendre réellement la sexualité. Je vous remercie.
Alors, Caroline Moreau-Fauvarc, ça mérite quand même des réactions, hein, ce témoignage de Jean de RDC. Ses élèves, surtout des filles, hein, on l'entend, sont venus le voir parce que le prof officiel, lui, il n'a pas très envie de donner ses cours. Il se cache derrière son programme à terminer, hein, le prof dédié. Du coup, Jean, il aimerait bien avoir des ressources, des bases pour répondre aux questions de ses élèves. C'est quelque chose qui peut se révéler très délicat d'un point de vue des contenus, des savoirs. En tout cas, ce qu'on peut dire quand on l'entend, c'est que lui, il semble être une bonne personne pour dispenser justement cette information, cette sensibilisation.
Le premier conseil que je souhaiterais donner à cet enseignant, c'est que c'est vraiment très bien qu'il ait pris conscience des besoins des élèves et d'essayer d'y répondre. La première chose, c'est peut-être d'apporter aux élèves la liste des endroits où ils peuvent trouver l'information nécessaire. Puisque l'enseignant, il est enseignant en comptabilité, il ne va pas forcément être à l'aise ni avoir les connaissances suffisantes pour apporter peut-être des informations biologiques, scientifiques précises. Et donc, finalement, outiller les élèves pour qu'ils puissent aller chercher eux-mêmes l'information et qu'ils puissent rencontrer des associations ou de l'infirmière scolaire si elle existe, voilà, pour que les élèves soient en capacité d'aller chercher les informations.
Et c'est vrai que dans le contexte de la République démocratique du Congo, si vous me permettez, il y a un certain nombre d'associations communautaires qui vont être des associations de jeunes, de santé sexuelle, voire de lutte contre le VIH, qui sont implantées au niveau de la ville et vers lesquelles on peut être orienté justement pour avoir une information bien détaillée, y compris avec des infirmières, des sages-femmes ou des professionnels de santé. C'est vrai que ça peut se poser aussi du point de vue de la responsabilité de ce professeur, Caroline Moreau-Fauvargue. Des parents qui viennent ensuite lui dire « qu'est-ce que vous avez raconté à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?»
Voilà, et donc il ne doit pas rester seul. Moi, je pense qu'ensuite, en tant qu'enseignant, il doit pouvoir aller voir son chef d'établissement, d'une part, peut-être pour évoquer le sujet que le collègue n'aborde pas, les cours d'éducation à la vie. Alors, à la vie, c'est peut-être un petit peu court, mais c'est peut-être comme ça que c'est dénommé dans les programmes congolais. Mais en parler avec le chef d'établissement, contacter d'autres collègues, des enseignants, par exemple, des sciences de la vie et de la terre, pour ne pas être tout seul. Et s'ils souhaitent organiser ces séances, d'abord avoir l'autorisation de son chef d'établissement, parce qu'il travaille dans un cadre bien précis, et éventuellement faire appel à des collègues qui, eux, ont la compétence. Et ensuite, animer éventuellement ces séances à deux en co-animation, c'est ce qui est vraiment préconisé, en fait, c'est ce que nous préconisons dans les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité.
On retrouve nos invités en studio, Charline Vermont. Dans certains contextes, les enseignants peuvent se trouver assez démunis. On a parlé tout à l'heure de ce guide que vous avez signé. Il y a maintenant cette nouvelle orientation du programme. Ça veut dire qu'il y avait un réel besoin en termes de ressources.
Clairement, en fait, ça fait 2 ans et demi que le livre est paru et ça fait 2 ans et demi qu'il s'agisse de profs en primaire ou de profs en collège. On me demande quasi tous les jours, Charline, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ton livre ? Est-ce que j'ai le droit de prendre des extraits, des pochettes à mes élèves ? Ah ben ça, en l'occurrence, clairement, il y avait un besoin important de ressources. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est une fois qu'on a donné en fait des informations aux élèves, une fois qu'on a débuté ces conversations, les enfants vont avoir des questions qui émergent. Il y a une espèce de besoin de suivi. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait pour ces enfants qui vont avoir des questions et qui vont aussi sans doute en parler à leurs parents, parce qu'il y a un moment, je pense que voilà, enfin, on est quand même, il faut
dans
tout
une
un
communauté.
Village, il faut tout un village pour élever un enfant. Et pour moi, c'est important en fait d'impliquer les parents, parce que si on n'implique pas les parents, deux choses vont se passer. D'abord, il va y avoir une espèce de qu'est-ce qu'on a raconté à nos enfants, et ça, on l'a bien entendu dans le témoignage de Jean. Et franchement, je peux comprendre l'angoisse des parents de je ne sais pas ce qu'on est en train de parler, enfin des sujets qui ont été évoqués avec mon enfant. Et si l'enfant après a des questions, bah, il va venir me voir, et moi j'aimerais bien aussi.
Surtout quand il va le redire avec ses mots d'enfant, ça peut être très différent de ce qui a été dit.
Exactement. Donc pour moi, c'est important d'abord d'impliquer les parents. Et la deuxième chose, ça c'est également ce qu'on entendait dans le témoignage de Jean. Finalement, on s'aperçoit que les enfants, les ados, ils vont se tourner vers certains adultes en particulier quand ils auront des questions. Et ça, c'est important parce que Jean a été identifié comme une personne de confiance par ses élèves. En fait, comment on fait pour essayer de permettre aux enfants de s'exprimer dans un cadre safe ? Parce que les profs, il y a parfois des enjeux qui nous dépassent, qui lient aux élèves, qu'il s'agisse de notes, il y a des profs avec lesquels on s'entend plus ou moins bien, devant qui on osera plus ou moins poser des questions. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a cette question de comment on fait pour garantir une transmission dans un espace non jugeant, safe.
La confiance. Caroline Moreau-Fauvargue, dernière question. Certains opposants à l'éducation à la sexualité, bon, on ne leur donne pas trop de place dans cette émission, ce n'est pas vraiment l'objet. Mais quand même, ils disent que c'était la famille de répondre aux questions, pas aux enseignants. Qu'est-ce que vous leur dites ?
C'est toute la question de la place de l'école dans cette éducation. Et si on s'attelle aux objectifs de l'école, l'école, c'est quand même l'idée de développer finalement, en s'appuyant sur un corpus de connaissances et sur une progressivité des apprentissages, de développer la personnalité, d'aider les élèves à devenir de futurs citoyens responsables et autonomes. Et en ce sens, l'école a toute sa place. Elle a son devoir de transmission, d'apporter des informations appuyées sur la science, qui permettent ensuite à l'élève d'exercer sa liberté et de faire ses propres choix.
Transmission de la connaissance et du respect. Le message est clair. Merci beaucoup, Caroline Moreau-Fauvard, qui nous reste environ 2 minutes de débat. Je sais que ça va être trop court, mais ce n'est pas grave. Je vous pose cette question parce qu'on n'a peut-être pas assez entendu ce mot aujourd'hui dans l'émission. Expliquez à un enfant de 5, 6, 7 ans, Charline Vermont, ce qu'est le consentement. Comment on fait ?
Le consentement, c'est de dire ton corps, c'est une forteresse. Il t'appartient. Nul ne peut y avoir accès sans ton consentement. C'est-à-dire, en fait, on doit te demander avant de te toucher, avant de te prendre la main, avant de t'embrasser. Et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu dois également demander à l'autre si il ou elle est d'accord pour être pris dans les bras, pour être touché, etc. Le consentement, c'est le respect mutuel qu'on se doit et c'est ce qui nous permet de faire société.
Un autre élément important, on n'en a pas parlé, pourtant on ne peut pas le passer sous silence, c'est la pornographie, docteur Juju. En aucun cas, la pornographie, c'est une forme d'éducation à la sexualité.
Ah bah non, mais ça, il n'y a pas besoin de demander à un docteur, je crois qu'on est tous d'accord.
Non, mais on le dit quand même.
Mais c'est vrai que c'est hyper important, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler de la pornographie qui fait des ravages. Enfin, le porno mainstream, parce qu'il y a d'autres types de porno, ou d'accès à la sexualité par des choses beaucoup plus respectueuses, mais le porno mainstream, c'est-à-dire ce que les gens vont trouver sur Internet en tapant des mots-clés, ça, c'est pas la vraie vie, non.
Et c'est pour ça que dire « c'est trop tôt, passer sous silence », ça n'est pas la solution, le mot de la fin, Charline Vermont, parce que de toute façon, un esprit curieux ira chercher de l'info. Autant lui donner les bons outils.
Absolument. Les enfants ont des questions et c'est important de répondre à leurs questions. Si votre enfant vous pose une question, c'est qu'il vous a identifié comme une personne de confiance. Alors, j'ai envie de dire, il faut honorer ce privilège d'être récipiendaire de cette question et dire « c'est super que tu me poses cette question, on va en parler, on va s'asseoir et je vais te donner des informations importantes dans une conversation saine et intelligente qui te permettra de te construire de manière épanouie et respectueuse. »
Une réponse intelligente parce que la curiosité, c'est la première des preuves de l'intelligence. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Charline Vermont, docteur Juju, très bonne journée à toutes les deux. Maintenant, on part pour Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'est le moment de retrouver Haïti nous parle, notre séquence dédiée à la santé mentale en Haïti. Parole, écoute, un rendez-vous que vous retrouvez un mardi sur deux dans Priorité Santé. Comprendre le ressenti des habitants, des Haïtiens, des Haïtiennes, les mots qui décrivent les événements et l'impact sur le bien-être et l'écoute d'un professionnel de la santé mentale. Haïti nous parle, ça commence en musique.
Sous le même ciel, sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main, on est soudés. Quand ça blesse en Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète.
Je suis Lovely et je vis à Port-au-Prince.
Bonjour Lovely.
Bonjour.
J'ai à cœur ma planète, chante Jean-Jean Roosevelt. L'écologie, c'est le cœur de votre métier de journaliste, hein ?
Oui, oui, je suis journaliste écologique. Je milite en quelque sorte pour la protection de l'environnement en Haïti.
Est-ce que ce métier, Lovely, il vous a déjà mis en insécurité ?
Oui, en juin 2019, on avait un confrère qui a été assassiné. Et là, je faisais partie d'un groupe de journalistes. On a organisé une marche pacifique pour exiger que la lumière soit faite sur cet acte et accompagner des membres de sa famille. Et depuis le jour de cette marche, dans l'après-midi, c'était l'enfer pour moi parce que je recevais des appels et des messages pour me menacer de mort et de viol. Ça m'a vraiment intriguée jusqu'à présent et je vis avec les séquelles parce que j'ai eu à passer une année dans la cachette pour me protéger de ces menaces.
Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça pèse sur votre sommeil, sur votre alimentation ?
Ah oui, je suis stressée, toujours dépressive et surtout je prends beaucoup de poids. Mon problème, c'est le stress qui a causé ce problème de surpoids. Et je n'ai pas été normalement accompagnée par des psychologues pour essayer de m'aider à guérir de ces chocs.
Qu'est-ce qui vous fait le plus de mal aujourd'hui? C'est l'insécurité ou c'est l'impunité?
Ben, les deux. Les deux. Si l'impunité ne régnait pas, l'insécurité n'allait pas prendre cette échelle en Haïti. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de kidnapping. Et je suis et PDG de Média en ligne parce que ça, c'est mon métier. J'aime ce métier. Bon, les psychologues m'avaient donné ce conseil. Essayez de faire ce que vous aimez le plus. Travailler sur n'importe quel sujet ou du moins à être un journaliste d'enquête.
Lovely, je vous arrête parce qu'on échange. Vous nous racontez des choses très dures. Mais il y a une force et une beauté dans votre voix. Il y a une joie dans votre voix. Il y a vraiment... Cette violence, c'est pas votre vie, c'est pas votre nature. Ce stress et cette douleur, c'est pas vous.
Eh ben, bon, c'est ma nature. Mais les personnes de mon entourage, elles ne savent pas ce que je traverse à l'intérieur de moi.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan de la santé mentale, Lovely, vous avez besoin de quoi?
Ah bon, je pense que voir un psychologue, c'est la meilleure chose pour plusieurs séances jusqu'à ce que ça marche pour moi. Mais les psychologues sont aussi malades parce que ce qui se passe en Haïti actuellement, ça contamine presque toutes les personnes, les jeunes, les enfants, les adultes, les vieux. Et il y a toujours des SOS qui se lancent sur les réseaux sociaux parce que bon nombre de la population sont en dépression.
Un grand merci, Lovely. Merci, c'était vraiment très, très intéressant tout cet échange. Si j'avais une baguette magique, je sais où je pourrais l'agiter. Merci beaucoup Lovely pour ce témoignage. Une situation difficilement supportable pour Lovely. À son écoute, un spécialiste de la santé mentale, c'est vous Ronald Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous retrouve à Port-au-Prince où vous êtes psychologue et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Stress, insomnie, menace. Lovely qui doit prévoir, imaginer des stratégies pour se protéger. Mais malgré tout, elle continue de travailler.
Il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que par rapport aux filles et aux femmes en Haïti, les menaces sont effectivement de vous agresser, de vous tuer, mais les menaces sont aussi qui peuvent venir vous violer. Et Lovely a bien été un témoin, puisque on la menaçait au téléphone de la tuer, mais aussi de venir la violer. Et c'est une pratique courante des bandits contre des jeunes filles et des femmes en Haïti. Mais c'est vrai qu'en Haïti, les journalistes ne sont pas toujours bien traités. Hein? Surtout ceux-là qui font des reportages ou des enquêtes sur des questions qui sont sensibles.
Des sujets sensibles, on l'entend, une politique de terreur. Et Lovely le dit, c'est un impact sur sa santé physique, psychologique, en plus des difficultés matérielles. Donc tout ça, c'est un imbroglio qui la met dans une situation terrible.
Je vais vous dire, en général, quand les gens sont dans la situation de peur, d'angoisse, et qui sont même menacés, la première chose, c'est leur sommeil qui est troublé. Ils ne peuvent pas se nourrir, ou bien ils se nourrissent trop, ou bien ils s'enferment dans le sommeil, ils dorment tout le temps, ou bien ils ne peuvent pas dormir. Et puis, il y a tous les autres problèmes d'isolement, et puis tous les mécanismes qui vont avec, de la dévalorisation, sous-estime de soi, et puis ça peut aller jusqu'à vouloir et mettre fin à sa vie. Là, on a dans notre ligne téléphonique, le 29-19-90-00, je vous avais dit, pendant les 4 derniers mois, ce qu'on a constaté, il y a beaucoup d'idées suicidaires, pas moins de 12% des appels qui sont des idées suicidaires.
On rappelle ce numéro, 29-19-90-00. On entend chez Lovely une femme à la fois vulnérable et courageuse. Beaucoup de courage, mais malgré tout, Lovely a peur de perdre pied, peur de perdre cette motivation si précieuse, de voir encore son stress s'aggraver. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
La première chose que je dois dire, c'est qu'il y a heureusement des gens comme Lovely dans ce pays. Et c'est ce qui fait que ce pays survit jusqu'à présent. Ils font face, malheureusement, à des situations extrêmement graves, mais ils vont tenir et ils vont finir par avoir raison. C'est vrai que quand une femme comme Lovely s'engage dans le journalisme, c'est le journaliste qui porte sur les questions environnementales, ça pose problème et ça déstabilise sa vie. Se mettre à couvert pendant 3, 4, 5, 6 mois dans ce pays, ça crée d'énormes difficultés parce qu'on n'a plus de revenus. Et puis, au point de vue intérieur, personnel, c'est une épreuve extrêmement douloureuse. Mais heureusement que Lovely, comme bien d'autres, ont la foi et se cherchent les moyens pour s'en sortir et des fois s'accompagnent de proches, de parents ou d'amis qui peuvent la soutenir et qui aident ces gens-là à résister et à survivre.
Lovely nous parle. Un grand merci à vous, hein, Ronald Jean-Jacques. À très bientôt. On a besoin de vous pour faire vivre ce moment d'échange. Alors, que vous nous écoutiez à Cap-Haïtien, au Gonaïve, à Orlando ou à Montréal, contactez-nous sur Facebook. On vous donnera la parole dans Priorité Santé. J'ai à cœur ma planète. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, prépare, réalise votre émission. Demain, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée au service de protection maternelle et infantile, la PMI comme on l'appelle, chargée de la protection de la santé de la mère et de l'enfant. Un reportage long format signé Charlie Dupio que vous pourrez suivre à 9h10 temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.